deux invités ce dimanche. Le jeune metteur en scène marocain Hamza Boulaïs, il va venir nous parler de son nouveau projet un peu fou, une pièce de théâtre en mouvement entre deux villes, le temps d'une nuit. La première partie ce sera Rabat, la dernière à Tanger, et entre les deux, le spectacle va continuer dans un bus. Hamza Boulaïs et sa nouvelle création dans la deuxième partie de l'émission. Et puis le premier invité, c'est l'écrivain espagnol Victor del Arbol pour son nouveau roman Par-delà la pluie. Nous serons avec lui dans 3 minutes. Bonjour et bienvenue, c'est Bain de Culture.
Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one. And why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
Matt Denise, Angel Eyes, cette chanson est mentionnée dès la première page du roman de notre invité, Victor del Arbol, son portrait avant toute chose, avec Christophe Godino.
Après des études d'histoire à l'université de Barcelone, Victor del Arbol entre dans la police. Il va travailler 10 ans au sein de la police régionale catalane, la Mossos d'Esquadra. Il s'essaie aussi à la radio durant quelques années. Radio Estelle, un média catalan. L'écriture viendra plus tard à l'approche de la quarantaine. Des romans policiers, bien évidemment. Son premier grand succès d'édition, La tristesse du samouraï, best-seller en France et en Espagne, est traduit en une douzaine de langues. Il y a 2 ans, il reçoit le prix Nadal, l'équivalent du Goncourt en Espagne pour la veille de presque tout. Son dernier roman vient d'être traduit en français. Par-delà la pluie est publié chez Actes Sud. Victor del Arbol est l'invité de Bain de Culture.
Victor del Arbol, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Par-delà la pluie, votre roman, une incroyable saga, une myriade de personnages qui se croisent et s'entrecroisent tout au long de votre récit, sans lien apparent parfois. L'intrigue s'étire sur plusieurs générations. Ça commence à Tanger dans les années 40, c'est l'époque internationale de la ville. Quel est votre lien vous-même avec cette ville de Tanger ?
Je dirais qu'en deux façons. Une partie de la mémoire familière, parce que donc ma famille est d'origine de l'Andalousie. Nous avons une relation très particulière avec Tarifa, ici à côté. Et mon grand-père, et notamment mon père, il connaissait très bien Tanger, parce que c'est la ville de sa jeunesse. Après, je suis venu plusieurs fois, j'ai des amis ici. Et après, la deuxième raison qui m'intéresse, c'est que j'adore les villes frontières, les villes maritimes, les villes de port. Cette ville qui a un caractère très particulier à cause des mélanges et de la culture qui est perméable à ce qui nous arrive de la France et l'espagnol et l'arabe.
C'est d'autant plus le cas à Tanger, puisque les Espagnols, pendant longtemps, ont été dans le nord du Maroc.
Ouais.
Et puis de Tanger, on voit l'Espagne réciproquement. Du sud de l'Espagne, on regarde les côtes de l'Afrique, on regarde Tanger.
Je dirais que c'est la grand paradoxe, c'est de 14 kilomètres de différence. Mais historiquement, c'est vrai que l'Espagne, elle a fait l'édo. Elle a montré l'édo beaucoup de fois à l'Afrique, le Maroc et notamment au Tanger, parce que les sujets qui m'intéressent dans ces romans, c'est traiter aussi la relation pas toujours facile, en fait toujours compliquée, complexe, entre cette ville et l'Espagne, non, et l'histoire de l'Espagne. Parce que pour nous, Tanger, mais tout le Maroc, c'est une partie très importante de notre histoire.
Au départ de votre livre, il y a Thelma, une jeune Anglaise. Elle est éperdument amoureuse de son époux, de son amant, de son amour. Il est parti, la laissant seule avec sa fille. Elle est désespérée. Elle écoute en boucle la chanson que l'on vient d'écouter, Angel Eyes, interprétée par Matt Denis. C'est vous qui avez fait la programmation ce dimanche, Victor, je le signale au passage. Je lis un passage de votre livre. Nous sommes au tout début. Quand en 1944 ils étaient arrivés, jeunes mariés, Tanger n'avait pas de préjugés. Ils pouvaient rendre visite aux amis marocains qui vivaient dans des maisons si basses de plafond qu'il fallait se baisser pour passer d'une pièce à l'autre. Ils se lièrent d'amitié avec des personnes influentes ou célèbres, les potentats du boulevard Pasteur, dont les affaires étaient un peu troubles, les peintres extravagants et les écrivains yankees, les aventuriers canadiens, australiens, français, anglais, hollandais, qui aspiraient à un nouveau départ sur une terre qui ne posait pas de questions. Thelma avait 25 ans et l'Europe était en guerre. À peine avait-elle mis le pied à Tanger qu'elle a eu la sensation d'arriver dans un monde troublant et dangereux, doté d'une vitalité et d'une force incroyable. Elle s'est prise de tout ce qu'elle voyait, touchait et goûtait, ses sens traqués l'inattendu sur la plage de Malabata, où elle restait jusqu'à l'aube, autour des flambées qui montaient dans un ciel noir, absorbant et merveilleux, à déguster un tagine aux poissons et à écouter la musique des joujoukas. Victor Thelma a une fille, Elena, et une soixantaine d'années plus tard, on va retrouver Elena, pas loin, juste de l'autre côté du détroit, à Tarifa, dans une maison de retraite. Elle n'est pas ravie d'être là, elle s'ennuie, mais un jour, son regard se pose sur un nouvel arrivant. Ils sont très, très différents, mais c'est un coup de foudre amical. Ce coup de foudre amical, elle l'a avec Miguel,
ouais.
Quelqu'un de très différent d'elle. Hein. Elle est extravagante, elle rit fort, elle est originale, lui c'est quelqu'un d'assez austère. Il a été directeur d'une banque.
Ouais. En fait, ces rencontres entre Miguel et Elena est destinée à la défaite, parce qu'ils sont très très différents. En fait, tu as raison, Miguel c'est un type, je dirais, qui aime la sûreté de la vie, qui aime l'ordre. Toute sa vie c'est réglé par la loi, par la certitude. Et par contre, Elena, c'est un esprit libre. Moi, j'ai dit, elle est une rebelle qui cherche une cause. La particularité de cette relation, c'est que Miguel, au début du roman, il a peur de prendre l'avion, de voler. Tu sais qu'à la littérature, tous ces métaphores, tous ces symbolismes, non ? Ça veut dire, Miguel, finalement, il déteste imaginer notre vie, de donner l'espace à l'imagination, à l'émotion, etc. À la fin de ses voyages, je peux dire, Miguel, il a perdu la peur à voler, il vole. Ça veut dire que les vrais voyages, c'est les voyages qui nous changent. Donc cette amitié impossible, improbable entre Miguel et Elena, finalement, devient de l'amour. Ça, c'est une chose que je trouve assez magnifique de la vie. Si on accepte l'inattendu, ça devient merveilleux, ça, la vie.
Et c'est ça en fait, parce qu'en fait, ils sont au terme a priori de leur vie. Au départ, on peut l'imaginer ainsi, ils sont âgés, ils ont plus de 70 ans. Ils sont devenus un peu un poids pour leur famille, ils ne sont plus vraiment autonomes. On les a mis dans une maison de retraite, alors certes elle est très belle, hein. C'est une maison de retraite luxueuse à Tarifa pour des gens argentés. Mais in fine, c'est un mouroir. Elles comprennent qu'ils vont terminer leur jour là. Je crois qu'à un moment, Miguel, quand il rentre dans la chambre qu'on lui a assignée, il regarde tout de suite si effectivement il y a la vue mère qu'il a demandé. Et puis en même temps, il regarde le lit, il comprend qu'il y a d'autres pensionnaires auparavant qui sont passés par là, qui ont passé leur dernier jour, qui sont morts là. Effectivement, à un moment, l'un et l'autre, ils vont se rebeller, ils vont tout envoyer balader, ils vont se dire non, on part, on s'en va.
Parce qu'en fait, tous ces romans parlent un peu de quel est notre regard à propos de la vieillesse, à propos de la maladie, à propos de tout ça. Et c'est plein de clichés, et c'est plein de fautes de respect à la vie et à l'expérience. C'est-à-dire, et la paradoxe, c'est que l'Europe, c'est un continent vieux. Qui déteste la vieillesse, tu vois. Donc c'est ces voyages que Miguel et Elena ils vont faire pour partout, évidemment.
Quand vous dites qu'on déteste la vieillesse, c'est qu'en fait c'est toujours le culte de la jeunesse, c'est les personnes âgées, les aïeux, on les met de côté.
Ouais, ils dérangent.
Mm-hmm.
Et Miguel, on peut dire que à cause de son caractère, il accepte son rôle. Bon, d'accord, je vais partir en retraite, je vais garder ma mémoire en silence et je vais mourir comme une plante, si tu veux. Mais le caractère d'Elena, il se révèle. Il dit non, je déteste. Pourquoi vous parlait avec moi comme si moi j'étais un enfant, comme si j'étais une petite fille. Finalement, Hélène, elle nous montre que c'est pas l'âge qui nous fait vieillir, c'est pas les temps, c'est la peur.
La musique est très présente dans votre roman. Vous m'avez suggéré de mettre aussi un passage de la sonate 33 de Scarlatti. Vous abordez beaucoup le terme de la vieillesse donc dans ce livre, par-delà la pluie, de la solitude, du bilan, des regrets, de l'amertume parfois aussi. Page 49, nous sommes donc avec Elena, et Elena appelle son fils David, qui habite à Malmö en Suède, très très loin. Elle prend de ses nouvelles, au passage elle lui signale qu'il a oublié son jour d'anniversaire. Alors il s'excuse platement, puis la conversation se termine ainsi parce qu'elle comprend qu'elle ennuie un peu son fils. Il est loin, il est avec sa femme, qui s'impatiente, il faut passer à table, il y a les enfants derrière. Elle raccroche. Longtemps après la fin de la communication, elle est toujours immobile devant l'écran de l'ordinateur. Le professeur d'informatique s'approche, l'air inquiet. De mauvaises nouvelles, Elena, vous êtes un peu pâle. Elena réagit avec brio, elle se lève, elle feigne une énergie qu'elle est loin d'avoir, son genou est douloureux. « À l'horizon, rien de nouveau, vieillard et solitude », répond-elle. Le jeune homme paraît déconcerté. « Je peux vous aider ? Appelle ta mère pour son anniversaire. » C'est un conseil. Elena sort de la bibliothèque en dissimulant sa claudication. Elle se dirige vers le cloître, une fontaine en pierre crache un filet d'eau qui retombe sur les pierres moussues et s'assoit sur un banc. En regardant l'eau, elle se rappelle le jour où son fils, sur le chemin de l'école, avait lâché sa main à un carrefour et lui lançant un regard grave, avait déclaré qu'il ne voulait plus qu'elle l'accompagne jusqu'à l'école car maintenant qu'il avait 10 ans, ses amis se moqueraient de lui. Elena l'avait vu traverser la rue, le sac plein de livres à l'épaule, raide comme un petit homme, et elle avait senti le présage de la solitude.
Voilà.
Quand je parle de la vieillesse, on ne parle pas que de cela dans votre livre, loin de là. Je l'ai dit, c'est une saga, il y a un aller-retour permanent entre le passé et le présent, il y a plusieurs destins en parallèle, il est question d'enquête policière, d'assassinat, de combat de boxe, de virant en voiture à bord de belles américaines. Mmh. En France, le journal Le Figaro, en parlant de votre livre, dit qu'il est magnifiquement écrit, c'est vrai, et que c'est une saisissante et inoubliable réflexion sur la vieillesse et sur la vie. On parle de la vie en permanence aussi dans votre livre.
Oui, moi j'adore cette image que tu as lue. Parce qu'en fait, ces livres, c'est tout le temps mélangé avec mes propres souvenirs. J'ai pensé beaucoup combien de fois nous sommes pas justes avec nos parents, avec notre père, notre mère, notre grand-père. Parce qu'on oublie très facilement tout l'effort, tout l'héroïsme quotidien, si tu veux, parce que moi je parle beaucoup de l'héroïsme quotidien, de ceux qui nous ont fait comme nous sommes maintenant. Et en fait, c'est loi de vie, parce que c'est très facile d'oublier que ton père, il était jeune aussi, il était enfant aussi, il avait une vie avant que tu existes. Quand on fait ces travaux, ces chemins arrière, on comprend mieux les sacrifices que notre famille a fait pour nous. Donc ça c'est la vie, c'est une vie ordinaire si tu veux, mais en même temps une vie extraordinaire, parce que moi je parle beaucoup de l'amour, moi je parle beaucoup aussi de la haine si tu veux, de la vengeance, de la douleur, la souffrance, la maladie, oui d'accord, tout ça c'est la vie, mais finalement c'est notre histoire, c'est notre chemin, c'est à nous la responsabilité de faire de cette vie une chose qui mérite l'effort de nos parents.
On parle beaucoup d'amour dans votre récit, l'amour qui fait perdre la raison, l'amour physique, l'amour charnel. Il y a un personnage qui s'appelle Carmen, c'est l'amoureuse, la seule maîtresse qu'a eue Miguel durant son existence. Et encore, l'espace d'un week-end, c'est très très court.
Ouais.
Elle lui écrit des lettres, et notamment celle-ci. Et elle lui écrit, tu dois trouver ridicule qu'une personne puisse te dire qu'elle t'aime après n'avoir partagé avec toi qu'un seul week-end. Peu m'importe d'être ridicule, et peu m'importe au fond que tu me crois ou pas, si cela éveille une inquiétude ou un espoir en toi. La vie n'est pas un film, je le sais, elle n'est pas un roman et ne se vit pas dans une chanson. Vivre n'est pas se rappeler pour oublier, courir pour échapper, je le sais aussi. Mais dis-moi, Miguel, à qui mon cœur doit-il des explications ? À toi ? Aux autres ? Ce que je ressens ne suit ni convenance, ni nécessité, ni raison, ni justice, ni bon sens, ni non-sens. J'ai choisi un homme. Ma peau l'a choisi pour moi. Tu finiras seul, Miguel. Et ce sera dommage. Mais tu l'auras décidé. Et un jour, tu comprendras que pour vivre, il faut vivre une fois pour toutes. Sinon, on meurt, irrémédiablement, au milieu des jours.
Voilà. C'est sage, Carmen. Oui. Moi, j'aime beaucoup parler de l'amour. Moi, j'explique toujours. Je suis classé dans les écrivains de polar, roman noir. On rigole quand j'écris des histoires d'amour. Mais c'est pas un amour naïf. C'est pas les garçons avec la fille, l'amant dans l'amant. C'est pas l'amour de les chansons de Charles Aznavour. C'est l'amour réel. C'est l'amour qui regarde pour voir l'autre, pour comprendre l'autre, pour accepter l'autre. Et Miguel, comme tant d'autres dans la vie, il a eu l'occasion d'habiter dans cet amour. Mais finalement, il n'a eu pas le courage. Il a décidé de garder ses émotions pour soutenir une famille, un travail, un status, des excuses. Et finalement, à la fin de sa vie, il comprend qu'il s'est trompé très très gravement. Et c'est pour ça qu'il a essayé de faire ses voyages avec Elena pour retrouver cet amour idéalisé, si tu veux. Mais la leçon qu'on peut dire de cette histoire, c'est que les troncs, ils passent une fois, pas deux.
Et à la fin, ils essaient de réparer quand même l'un et l'autre,
ouais,
ce qu'ils peuvent faire.
Ouais.
Une autre histoire d'amour, celle qui germe à l'adolescence entre Elena et Louise, une copine du lycée. À un moment, elles sont seules dans une voiture. Elena conduit à pleine vitesse dans les virages au-dessus de Tarifa et elles écoutent Frank Sinatra, Flying to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Frank Sinatra,
you.
Ce standard Flying to the Moon que vous évoquez dans votre récit, Victor. Je l'ai dit, c'est une saga. Ce sont plusieurs histoires qui sont menées comme cela en parallèle. Des personnages, au départ, on ne voit pas très bien le lien qu'ils peuvent avoir entre eux. Puis à la fin, comme un puzzle, tout s'explique, tout s'imbrique. En France, on a un réalisateur qui fait ça très bien dans ses films, c'est Claude Lelouch. Comment on écrit ainsi une histoire aussi complexe ?
Écoute, pour moi, la littérature, c'est le regard de la réalité. Et pour la raconter, il faut utiliser l'artifice de le récit. Mais si tu veux essayer d'écrire à propos de la réalité, il faut écrire comme on vit. On est toujours, tout le temps, en relation avec les autres. On est tout le temps avec les passés, les présents et les futurs. On est tout le temps dans les souvenirs, dans la vie et dans les désirs. Donc j'essaie toujours de raconter l'histoire de façon comme on pense la vie. La vie, ce n'est pas un récit linéal, mais il y a un lien finalement. Il donne l'essence à toutes ces histoires mélangées pour comprendre qu'on explique une histoire polyphonique, comme la vie, non ?
Polyphonique, c'est vraiment ça le terme en fait.
Ouais.
On est sur une partition, il n'y a pas uniquement une portée.
Exactement.
Avec quelques notes, il y a vraiment plusieurs instruments qui se répondent. C'est un orchestre.
Exactement.
Avec des choses qui s'enchevêtrent comme cela et l'ensemble fait,
ouais, et il faut,
un résultat cohérent.
Il faut l'écouter, il faut se laisser emporter pour la musique.
Par-delà la pluie, le titre de votre dernier roman, par-delà la pluie au final, qu'est-ce qu'il y a par-delà la pluie ? Il y a une éclaircie. Il y a le soleil.
La clarté.
La clarté.
La clarté, par-delà la pluie, c'est un peu l'idée de que finalement, quand on a vécu sa vie, ce qu'on attend, c'est la paix. C'est la clarté. Et surtout, c'est la paix avec soi-même.
La paix avec soi-même, ouais.
Il y en a une différence très importante pour moi entre vivre et survivre. Et moi, je ne vais pas survivre, je vais vivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin.
Victor Delarbol, Par-delà la pluie, votre roman traduit de l'espagnol par Claude Bleuton. C'est paru dans les collections Actes Noirs chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu dans Ban Culture ce dimanche.
Un plaisir.
Et vous connaissez l'émission Ban Culture, ça continue. Dans la deuxième partie, le jeune metteur en scène Hamza Boulaïz, il vient nous parler de son nouveau projet, un spectacle de 12 heures, l'espace d'une nuit, entre Rabat et Tanger. À tout de suite.
Midi, Ban de Culture, avec David Labo.
On a déjà eu le plaisir de l'accueillir dans cette émission, le metteur en scène Hamza Boulaïz, membre de la compagnie Spectacle pour tous. Leur projet, Agit Farej, amener le théâtre là où on ne l'attend pas forcément. Hamza, on est avec lui dans moins de 3 minutes. Le groupe brésilien Austin Coas sur Médien dans Ban Culture. Hamza Boulaïz, notre deuxième invité ce dimanche. Avant de le rejoindre, son parcours est retracé par Christophe Godino.
Hamza Boulaïz est diplômé de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat. En 2010, à sa sortie de l'école, il monte avec d'autres artistes la compagnie Spectacle pour tous. Leur principe, c'est que l'on soit riche ou pauvre, que l'on habite en ville ou à la campagne, tout le monde doit avoir accès à la culture. Il y a 3 ans, la compagnie inaugure son camion théâtre à Gîte Farège, une vraie salle de spectacle, une 60aine de places montées sur 4 roues. Ville, village, des montagnes du Rif jusqu'à celle de l'Atlas, les comédiens sillonnent le royaume sans relâche et vont même au-delà. L'été dernier, ils sont dans le sud de la France pour présenter leur dernière création au Festival d'Avignon. Le même été, Hamza Boulaïz est invité par les Nations Unies à prendre la parole au siège de l'organisation à New York, une conférence sur la montée de l'extrémisme et sur les moyens de la prévenir.
Toucher ces jeunes-là. Les grandes organisations peuvent aussi venir en aide aux jeunes à l'école et dans les quartiers défavorisés. L'école est la solution. On ne peut pas rentrer dans les maisons. Par contre, je pense au sein des écoles, et je parle des écoles publiques dans la région maintenant, on peut tous là-bas.
La culture, seul remède contre l'obscurantisme, la culture est la solution, répètent à l'envi les acteurs de ce domaine au Maroc. Hamza Boulaïz est l'un d'entre eux. Il a aujourd'hui 28 ans et il est l'invité de Bain de Culture.
Bain de Culture, théâtre.
Bonjour Hamza Boulaïz.
Bonjour David.
On vient de retracer à grands traits votre parcours. Et quel parcours ? Si on vous a invité ce dimanche, c'est pour que vous nous parliez de votre dernier projet, un spectacle qui va se dérouler entre 2 villes. Le temps d'une nuit. Les villes, c'est Rabat et Tanger. Et quand je parle d'une nuit, c'est que cela va commencer un soir à Rabat ou à côté de Rabat et cela va s'achever le lendemain matin à Tanger. C'est bien ça ?
Ouais.
Racontez-nous alors le déroulement, comment ça va s'organiser ?
Le déroulement de spectacle, ça va démarrer comme ça. Entre 20h et 22h, on reçoit le public. Entre 22h et minuit, les 4 premières scènes. C'est des ateliers que j'ai lancés en janvier dernier avec des enfants porteurs de la trisomie 21, des enfants handicapés, des surmuets et des autistes. Nous avons travaillé 4 scènes avec eux, les 4 premières scènes. Par la suite, et le public et les artistes, ils vont prendre un bus vers
Alors
Tanger.
Attendez, on va y aller tout doucement. D'accord. Et par étapes. Vous dites que vous accueillez le public entre 20h et 22h, c'est cela ?
Ouais.
Donc en fait, c'est parce que le public va arriver de façon échelonnée. Entre 20h et 22h, il y a déjà quelque chose que vous proposez ?
Entre 20h et 22h, on va bien s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut, et pour le public et pour les artistes, pour passer une nuit exceptionnelle. Donc les draps, tout sera mobile. Quelque chose à manger, l'eau, des transats qu'on va porter avec nous de Rabat à Tanger. Dans ce spectacle, le public a le droit de dormir.
Il va dormir pendant une durée du spectacle ou il y a une pause qui est prévue pour le repos, pour le sommeil
hein. En fait, il n'y a pas de pause. Le spectacle dure 12 heures. De 20h à 8h, entre les 2 villes.
Alors, il y a l'accueil, donc de 20h à 22h, puisque vous le décomposez comme ça de façon précise. Et après, vous dites de 22h à minuit, ce sera le résultat d'ateliers que vous avez fait avec des enfants à besoins spécifiques, des enfants qui souffrent de trisomie 21. Ça veut dire que les artistes, à ce moment-là, ce seront ces enfants ?
Et ils seront les enfants et des artistes pros.
D'accord.
Ils ont travaillé avec ces enfants-là. Mmh. Et puis, par la suite, on va prendre tous ensemble le bus vers Tanger, sur la route. Entre 1h et 5h du mat, il va y avoir la scène 6. La scène 6, dans le texte initial, se déroule dans un bus. C'est une écriture en itinérance. Dès 22h, tout le monde, les artistes, ils sont en costume. Ils vont rester en costume jusqu'à la fin du show. Et s'ils jouent plusieurs personnages, l'un des artistes, il va changer dans le parcours les costumes. Mais une fois ça démarre, c'est in.
Le bus est un bus de voyageurs classique.
De 50 places.
De 50 places.
Ouais.
Les 50 places, on parle des spectateurs ou les 50 places incluent les artistes ? Excusez-moi, c'est très précis, mais c'est pour essayer d'imaginer.
Incluent les artistes qui sont dans le bus.
D'accord, ok.
Mais pas le reste de staff. Mm-hmm, parce que le staff, il n'y a pas juste ceux qui vont dans le bus. Il y a le staff technique, il y a le staff équipe son, il y a logistique, parce que ça demande beaucoup de logistique. Une fois le public à Tanger, directement, on passe à la scène 8. C'est comme si on prépare le prochain plateau avant l'arrivée du public et les artistes avec.
Donc pendant le temps du trajet, le public continue à être sollicité par des artistes, l'histoire continue.
Oui.
Vous m'avez parlé de draps, vous m'avez parlé de transats. 12 heures, c'est très long, on est d'accord ? Les gens vont être fatigués à un moment ou à un autre. Donc ils auront l'occasion de dormir, mais ils auront la possibilité de dormir quand ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent. Ils ne vont pas rater une partie du spectacle ?
Si ça arrive, les gens ils sont fatigués, ils s'ennuient, peut-être ça ne les intéresse pas, ils ont le droit de dormir dans ce spectacle. Au moins, ils vont garder ce souvenir. Ah bon, j'ai assisté à ce spectacle, que j'ai pu dormir bien ou j'ai fait
alors, c'était la question que je voulais vous poser, c'est que 12 heures, c'est absolument énorme. Comment faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas ? C'est-à-dire que s'ils s'ennuient, ils ont le droit de toute façon de décrocher, de prendre un temps de repos,
exact.
De faire ce qu'ils veulent, peut-être de discuter un tout petit peu avec le voisin, d'échanger.
Ouais.
Mais la magie, de toute façon, ce sera celle-là. C'est que pendant 12 heures, on est embarqué dans une aventure commune. Il y a un spectacle entre deux villes qui bouge en partie dans un bus, et de toute façon, au final, ça restera une expérience.
Exact, une expérience.
Cette pièce, en fait, dont vous parlez, vous l'avez écrite à quel moment ? Je ne sais pas si on peut parler un petit peu du récit, de l'histoire.
J'ai vu un jour, quand c'est sorti, le film Tombouctou.
D'Abderrahmane Sissako.
Exactement, Et ce film-là, il m'a beaucoup touché. Et il m'a tout de suite donné envie d'écrire un texte de théâtre. Et j'ai écrit ce texte et j'ai postulé pour les résidences de Sundance. Et j'ai été accepté pour une résidence de 3 semaines, là où j'ai réécrit ce texte pour une deuxième version.
Sundance, c'est donc ce festival aux États-Unis.
Exact. Mm-hmm. Et il y a Sundance Théâtre et il y a Sundance Cinéma. Donc j'ai écrit ce texte, je l'ai développé. Et en écrivant, j'ai toujours imaginé et le public et les artistes. Tout le monde se déplace. Il n'y a pas un seul endroit pour voir cette pièce. C'est comme un film, en fait. Parce qu'il est très coupé en scène et on change d'un endroit à un autre facilement.
Donc, les dates, c'est le 30 avril, c'est un mardi. Ouais. Ce sera le début du spectacle.
Ouais.
Et 12 heures plus tard, le 1er mai, le périple s'achève à Tanger. C'est
à
bien
Tanger.
Ça. Alors, vous avez quand même de la suite dans les idées parce que l'une des premières fois où vous étiez venu nous rendre visite dans cette émission, c'était en juin 2015. Et vous nous aviez parlé alors du camion théâtre que vous avez réalisé, d'un spectacle dans un bus. Là, c'est pour bientôt, c'est dans quelques semaines. Vous nous aviez parlé aussi de faire un spectacle itinérant dans un bateau.
C'est vrai, oui.
Oui. Est-ce que vous avez conservé cette idée ? Ce sera pour plus tard, j'imagine.
En fait, pour le moment, je ne dispose pas les moyens pour construire carrément un bateau théâtre. Et aussi, je peux dire que je garde toujours dans ma tête l'idée d'avoir un bateau. Mais il y a un autre metteur en scène, une metteuse en scène, femme, qui travaille sur cette idée. Naïma Zetan va construire un flouquin, un bateau-théâtre pour un projet.
Une flouquin, c'est une grande barque, on va dire.
Exactement, une grande barque. Je rêve toujours d'avoir un bateau-théâtre et de faire une expérience pareille. Mais là, pour le moment, non, je n'ai pas...
Mais vous n'avez pas abandonné l'idée ? Vous l'avez toujours en tête ?
Non, jamais. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. J'ai toujours l'idée de bateau et même un spectacle en avion. Et depuis Avignon, j'ai vu des spectacles qui m'ont beaucoup marqué. D'ailleurs, à Avignon, c'est là où j'ai décidé, parce que j'ai assisté à un spectacle de 7 heures qui dure toute une nuit de 23 heures et qui finit à 7 heures. Sauf que c'était juste dans un seul endroit. Là, c'est plusieurs endroits. Je travaille sur un projet artistique, l'écriture en itinérance. Les gens, aujourd'hui, je pense, ils s'ennuient facilement. Les autres arts avancent. Donc, dans mon petit atelier, j'essaye d'expérimenter certaines choses pour que les gens passent avec nous des expériences, pas que le spectacle.
Ce projet qui s'annonce Exit, ce sera entre Rabat et Tanger, on l'a dit, du 30 avril au 1er mai, puis vous avez plusieurs projets en parallèle, vous avez toujours plusieurs fers au feu. Il y a aussi le Théâtre de Poche que vous avez inauguré il y a de cela quelques semaines.
14 février 2019.
Le 14 février, ça se passe dans l'un des lycées publics de Tanger où vous intervenez.
Ouais.
C'est un théâtre, un véritable théâtre, un petit théâtre. Ce serait chouette que vous nous le fassiez visiter.
Let's go.
Alors on y va. On va marquer une petite pause musicale, on va sortir des studios de Médias, on va se rendre donc dans ce lycée pour visiter ce théâtre de poche. A tout de suite. Hein.
Médias, David Labo, David Labo, David Labo.
Le projet Gide Farage de Spectacle pour tous, c'est le Camion Théâtre. C'est également des ateliers théâtre animés chaque semaine depuis 3 ans dans 6 lycées publics de Tanger. Des centaines d'élèves en ont bénéficié. Certains d'entre eux ont créé depuis leur propre association, leur propre collectif. Il ne leur manquait plus qu'un lieu pour se retrouver, pour répéter, pour travailler chaque week-end. D'où la naissance de ce théâtre de poche. Il s'est implanté dans le lycée Moulay Slimane, sur une colline de la ville, le quartier Mojahedine. Un bâtiment bleu ciel en retrait. Très banal en apparence, en son centre, une porte en fer. Nous y voilà.
Donc ici, c'est l'entrée du théâtre. Au départ, c'était une seule salle que nous avons aménagée maintenant en 5 espaces. Le premier espace, c'est celui-là. C'est l'administration de la compagnie. Là, on fait nos réunions, là où nous avons nos comptabilités, nos dossiers de presse, etc.
Donc, c'est un petit espace à gauche, en fait, qui est délimité par des parois, c'est vitré. Bon, il y a une partie de la salle qui est réservée pour l'administration.
Exact. Et la deuxième partie, c'est les loges.
Des loges d'artistes comme dans un vrai théâtre.
Je pense, avec les moyens qu'on dispose, oui, il y a du miroir, il y a un peu de tout, l'eau, là où mettre nos affaires. L'idée, c'était de vraiment aménager un petit espace afin qu'on reçoit bien comme il faut toutes sortes de productions ou de spectacles. Et en même temps, c'est un endroit là où l'ensemble des associations et clubs créatifs créés par le projet Agit Farage sont domiciliés. Ils répètent, ils trouvent tout le temps leurs costumes, leurs accessoires, bien arrangés, comme il faut, pour l'utiliser dans le bon moment. C'est un théâtre là où nous avons une régie en haut, les projecteurs, puis un système de sonorisation. Ça fonctionne comme ça. On ouvre la porte, le public traverse cette structure, il rentre dans le 4e espace, celui qui est désigné au public. C'est des gradins, une capacité d'accueil de 40 places face à une scène noire, totalement noire, là où ça se passe les spectacles.
On parle de théâtre de poche parce que c'est un théâtre avec tout ce que cela peut comporter, mais un petit théâtre.
Un petit théâtre, oui.
Quand le projet Gide Farage est arrivé dans les lycées, il y avait déjà un éveil à la culture, un éveil au théâtre, ou c'est vraiment quelque chose de neuf,
hein? En général, c'est quelque chose de neuf. Depuis les sondages, parce qu'on a des formulaires que les élèves remplissent, sur 100%, il y avait 99% qui ne font pas la différence entre théâtre et cinéma déjà. Où un grand, mais vraiment pourcentage, n'a jamais mis le pied dans un théâtre ou dans le cinéma. Donc, on a vraiment commencé béaba.
Et là, aujourd'hui, vous allez répéter avec les comédiens du spectacle Exit.
Exact. Aujourd'hui, on répète avec les artistes résidents. Parce que comme aussi les élèves répètent pour leur production, nous aussi on répète pour notre propre production. Nous, la compagnie Spectacle pour tous qui a initié ça.
Et ça va commencer
Dans pas longtemps. Je dois aller me préparer.
Alors je vous laisse vous préparer. Merci Hamza.
Merci David.
Et sur la scène cet après-midi-là, trois comédiens d'Agit Farage, parmi lesquels Jeanne El Haloui, membre fondatrice de la compagnie. Jeanne nous parle d'Exit, ce nouveau spectacle, et de son rôle, de ses rôles au sein de cette pièce.
Je joue une femme âgée. J'ai essayé de faire des recherches sur le personnage. La voix, la gestuelle, l'attitude, la façon de parler, de se déplacer, de bouger. Et c'est ce qui m'a permis de le camper correctement. Enfin, je l'espère. Et en même temps, dans cette pièce, il y a énormément de personnages. Il y a moi-même, j'en interprète plusieurs. Il y a notamment une mère, elle s'appelle Bouchaïb. C'est une mère aimante, elle est très tendre avec son fils. Elle le soutient et elle cherche à le protéger de son père qui est plus dur avec lui. Après ce spectacle, le fait que l'on soit constamment en mouvement, c'est une chose formidable, c'est une nouvelle expérience. Et vous savez, de toute façon, c'est l'essence même du métier de comédien, sortir du schéma classique et multiplier sans cesse les nouvelles expériences. Ce qui m'a plu aussi, bien sûr, c'est la variété de mes personnages. Le fait d'aller de l'un à l'autre, c'était un défi. Je n'ai pas à me concentrer sur un rôle seulement, j'en ai plusieurs. Et pour chacun d'eux, il y avait le même travail de réflexion, de recherche. Comment lui donner vie, quelle voix, quelle attitude, quelle gestuelle, c'était un sacré travail.
Voilà, Jeanne El Haloui, le nouveau spectacle du projet Agit Farage Exit, représentation exceptionnelle dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Les places sont comptées évidemment, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à spectaclepourtous2009@gmail.com. Et on a mis cette adresse email sur le site de l'émission, medien.com, émission de la rédaction, rubrique Bain de Culture. C'est la fin de l'émission, merci de votre fidélité, à dimanche prochain. Je vous embrasse. I think I like it too.